Au tout début du XXe siècle, en Russie, s'est produite une formidable explosion de courants littéraires et artistiques qui a ébranlé toute l'Europe. On appelait cette époque l'âge d'argent, celui pendant lequel une génération de peintres, de musiciens, d'écrivains et de poètes russes ont placé leur pays à l'avant-garde de la création européenne. Une extraordinaire collection de talents réunie par le créateur des ballets russes, Serge Diaghilev. Un personnage étrange, homme du monde et dilettante, possédant au plus haut point le goût pour tous les arts sans en pratiquer aucun, il a découvert, révélé ou inspiré des écrivains et des artistes encore peu connus qui s'appelaient Nijinsky, Serge Liffard, Jean Cocteau, Apollinaire, Colette, Ravel, Stravinsky, Prokofiev, Debussy, Picasso ou Max Ernst. Le portrait de Diaghilev par un de ses compositeurs et chefs d'orchestre, Igor Markevitch.
Le génie de Diaghilev était de découvrir. Ce fut un des plus grands agents provocateurs de l'histoire. Il provoquait le talent, il provoquait le génie. Au fond, son art était d'obliger l'esprit créateur à sortir ce qu'il avait de meilleur. C'était une sorte de Gulliver, vêtu à l'ancienne mode avec une recherche surannée. Ses cannes, ses cache-colles, ses hautes formes, ses monocles et ses binocles sont restés fameux. Il tenait du pachyderme et du paquebot et voguait noblement dans un sillage de parfums et de sel de bain. Sa politesse aussi était d'une autre époque et ne l'empêchait pas d'être parfois ironique ou cassant, voire impitoyable.
Vladimir Fedorovski, bonjour.
Bonjour.
Alors dans votre histoire des ballets russes qui vient d'être publiée aux éditions du Rocher, vous parlez bien sûr longuement de celui qui les a créés, Serge Diaghilev. Est-ce que le portrait que l'on vient d'entendre correspond à la réalité, une sorte de Gulliver, un pachyderme, un paquebot, disait Markevitch?
C'est vrai, c'était un titan, parce qu'il a créé ce phénomène extraordinaire du XXe siècle. Il ne devait pas se réunir. Ces Polonais, comme Apollinaire, ces Espagnols, comme Picasso, ces Français, puisque tous les grands Français de l'école de Paris ont été là, et finalement ces Russes. Et pourtant, ils se sont réunis. Pygmalion, on dirait. Aussi, j'emploierais le terme égérie au masculin, qui poussait les gens au pinacle. Un grand manipulateur, un génie aussi de relations publiques, bien avant l'heure. Il inventait plein de choses. C'est un personnage hors commun. Et je vais vous dire, vous savez, j'ai calculé sur 100 hommes, plus grand homme de XXe siècle, dans la liste du New York Times, ils ont cité 15 qui ont appartenu au ballet russe. Le Figaro faisait le même. Et personne n'a cité Diaghilev. Et c'est pour ça, finalement, l'histoire secrète des ballets russes, c'est hommage à cet créateur exceptionnel.
Ce qui est étonnant, c'est que les ballets russes, c'est de la danse, c'est de la musique. Lui, il n'était ni musicien, ni danseur, ni chorégraphe, ni peintre. Qu'est-ce qu'il avait comme fonction exacte à la tête des ballets russes, en dehors du fait qu'il les a créés?
C'est vraiment quelqu'un qui produisait les idées. Mais, je vous dis, derrière, manipulateur qui poussait les artistes, sans pétillement de la création de Diaghilev, il n'y avait pas de talent de Nijinsky, de Stravinsky, même de Chanel, même de tant d'autres. Alors, en fermant, on a dit, qui poussait les gens à la première ligne. Celui qui était derrière la scène, l'homme de l'ombre, qui créait des grands vedettes.
Vous avez cité Chanel, Vladimir Fedorovski, parce qu'elle a créé des costumes pour Diaghilev, pour les ballets russes. Et c'est vrai que les ballets russes, c'est pas seulement une révolution dans la musique et la danse. Il y a tous les arts, vous venez de les citer d'ailleurs, qui se sont greffés là-dessus.
Ça, c'était justement la particularité des ballets russes. Finalement, c'est pas seulement le phénomène de la danse. C'est le phénomène de l'art qui transgressait toutes les frontières. L'art pictural, la musique, bien sûr les ballets, mais au-delà de ça, vous avez cité Chanel, mais vous savez, toute la mode française a été employée, Poiret plus tard. Mais finalement, la collection d'Yves Saint Laurent, célèbre collection des ballets russes, ils ont été tous là. Et c'est ça qui est présence extraordinaire. On a utilisé le mot suranné. Je suis persuadé que plus que jamais, c'est une modernité totale qui nous a attrapé aujourd'hui.
Alors c'est d'abord les ballets russes, par définition, un corps de ballet qui a été créé à partir de la Russie, à partir de ces écoles, qu'on appelle de Saint-Pétersbourg. Très important, les ballets en Russie à la fin du 19e, début 20e.
C'est un phénomène à la fois russe et français. Dans la réalité, c'est une affinité artistique et sentimentale russe et français. Parce qu'il y a un français jeune homme, finalement, de à peine 30 ans, qui débarque en Russie, Marius Petipa, et qui rénove les ballets russes. Finalement, les ballets russes proprement dit du 19e siècle, c'est surtout cette création commune entre Tchaïkovski et Marius Petipa, entre la France et la Russie.
Alors c'était aussi des danseuses, parce que c'était un vivier pour toutes les maîtresses impériales. Vous citez Matilda Krestinskaya, qui était une grande vedette des ballets en Russie, à Saint-Pétersbourg, qui était la maîtresse du futur Nicolas II. Et puis, alors c'est à partir de ces gens-là qu'effectivement il va créer, que Diaghilev va créer les ballets russes et venir avec eux à Paris, avec pas seulement des danseuses, mais aussi un danseur qui va les rendre célèbres, qui était tout à fait inouï, prodigieux, même, je crois, le plus extraordinaire du XXe siècle, c'était Nijinsky.
Bien entendu, vous avez bien senti que le phénomène de ballet russe, c'est aussi le phénomène sentimental. Dans l'histoire, cette histoire secrète de ballet russe, cette histoire sentimentale de la fin du XIXe siècle, mais surtout du XXe siècle. Bien sûr, les danseuses de Tsar, plus tard, on parle là des danseuses de Staline et de tant d'autres, même il y avait enfin un ambassadeur français qui sera piégé par les danseuses. Mais au-delà de ça, il faut dire que Diaghilev, il ne dissociait pas l'art et l'amour. Et finalement, il utilisait l'amour dans le but de pousser l'art à la première ligne, et l'art était accompagné toujours l'amour. Et il rencontre un garçon très timide, un garçon de 17, 18 ans, et d'un coup, il voit que ce garçon, il sera le génie par excellence. Évidemment, c'est un coup de foudre entre les deux, et puis il le forme. Il le forme, il l'amène dans les musées, il l'amène à Venise, bien sûr, plus tard. Et finalement, Nijinsky sera ce grand danseur du siècle.
Écoutons justement le portrait qu'en faisait Jean Cocteau, qui a vu Nijinsky à ses débuts à Paris en 1909. Jean Cocteau.
Ce jeune homme dont la musculature déformait les vêtements et dont le haut cou, sortant d'un col dur, soutenait une petite tête simiesque aux cheveux rares. Ce jeune homme d'allure ingrate et bourrue, car il vivait enfermé dans son rêve, ce jeune homme sortait de sa loge et entrait sous les projecteurs avec une telle beauté, une telle puissance de grâce, tout lui était danse, l'immobilité comme le saut, et le geste, et le regard, et la manière de tourner la tête de gauche à droite, et de droite à gauche. Je l'ai vu vaincre les lois de l'équilibre, s'envoler en ligne droite par la fenêtre du spectre de la rose, je l'ai vu mourir sous la neige de Petrouchka et nous faire pleurer par un geste. Je l'ai vu saluer d'une sorte de charmant salut militaire, dans une tempête d'applaudissements et devant des salles debout qui refusaient de se rasseoir.
C'était le portrait de Nijinsky par Cocteau sur un extrait du Prince Igor de Borodine, un des trois spectacles avec lesquels les ballets russes ont débuté au Châtelet à Paris le 19 mai 1909, un triomphe si l'on en croit les témoins de l'époque, la revue texte Stéphanie Duncan.
Alors ce 19 mai 1909, ce n'est pas seulement un triomphe, c'est un véritable choc, la révélation d'un monde nouveau. Pour preuve, le témoignage de la comtesse de Noailles, poétesse et mécène, présente à la première. « Je compris tout de suite que je me trouvais devant un miracle, dit-elle. Je voyais ce qui n'avait pas existé encore. Tout ce qui éblouit, enivre, séduit, attache, avait été comme dragué et dirigé sur la scène et s'y épanouissait dans un naturel aussi parfait que le monde végétal. » Alors pendant 6 semaines, le public parisien est en délire. « Le rideau rouge, écrit Jean Cocteau, se lève sur des fêtes qui bouleversent la France et qui entraînent une foule en extase derrière le char de Dionysos. » Un critique d'art, André Varnaud, explique que ce qui stupéfia d'abord le public français, ce fut le décor et les costumes. Les uns, dit-il, criaient au miracle et d'autres à la barbarie, mais tous étaient bouleversés. Il faut se souvenir aussi de ce qu'on avait coutume de voir à l'époque. Au théâtre régnait la poussière et la pénombre, la fadeur, la mélancolie. Il est facile alors d'imaginer le fracas que firent dans cette molle douceur les décors russes. Un pavé dans la mare, un coup de revolver dans la glace. Alors, les Français donc découvrent aussi des danseurs hors pair, hein, la belle Tamara Karsavina par exemple, ou Anna Pavlova, et bien sûr Nijinsky. Comment faire imaginer à qui ne l'a pas vu de ses yeux, demande la peintre Valentine Hugo, ce jeune homme de 19 ans, bondissant hors la mesure humaine, beau comme un astre dans ses costumes étincelants, émouvant comme une biche. En Nijinsky, en 1912, dans le rôle du faune, dans l'après-midi d'un faune sur la musique de Debussy, impressionne le sculpteur Auguste Rodin. Dans aucun rôle, dit-il, Nijinsky n'est aussi merveilleux et admirable, ni sot ni bon, mais les attitudes et les gestes d'une créature animale à demi-consciente. Il s'étire, se plie, se baisse, s'accroupit, se redresse, s'avance et recule avec des mouvements tantôt lents, tantôt brusques, nerveux, anguleux. Tout son corps exprime ce que dicte son esprit, et Auguste Rodin conclut, il possède la beauté des fresques et des statues grecques. Pour un autre spectateur de l'époque, Louis Gillet, critique au Figaro, cette première période des ballets russes, hein, entre 1909 et 1912, est une des grandes époques de sa vie. Ce fut, dit-il, un événement, une surprise, une rafale, une espèce de bouleversement. Chez Razade, le prince Igor, l'oiseau de feu, le spectre de la rose. Je peux dire sans exagérer que ma vie se partage en deux, avant et après les ballets russes. Toutes nos idées, notre vision se transformèrent, les écailles nous tombaient des yeux.
Les témoignages sont unanimes, hein, c'est un succès considérable. Les ballets russes, alors arrivés en France, Vladimir Fedorovski en 1909.
Comment bien sûr, mais ce n'était pas évident. La première clé, bien sûr, c'est le fait qu'il y avait des grands novateurs. Tout d'abord Nijinsky, danseur exceptionnel. Après, évidemment, c'est ces grandes danseuses. Mais il impose la danse masculine. N'oubliez pas, la danse masculine n'était pas considérée à l'époque.
Il y a une très belle phrase de Claudel que j'ai sous les yeux et qui dit « Nijinsky a porté autre chose, les pieds enfin ont quitté la terre, il a porté le bon, c'est-à-dire la victoire de la respiration sur le poids. »
Voilà, vous ouais. comprenez, c'était magique déjà ça. Chorégraphe exceptionnel, Michel Fokine, mais aussi on transgressait les arts, il mélangeait tout. Il imposait bien sûr les grands décorateurs avec lui. Et puis c'était un frimeur comme tous, génie de relations publiques. Il a eu son réseau, son meilleur agent, c'était évidemment Cocteau. Et puis ces grands aristocrates à côté de lui, qui roulaient pour lui tout le temps. Et finalement, il réussit aussi, bien avant l'heure, la campagne de presse exceptionnelle. Et finalement, comme ça, son génie éclate. Et avec lui, le génie de tous les artistes qui l'accompagnaient éclate en même temps. Personne n'était biaisé. Et tout le monde était content. Finalement, il a conquis aussi Paris par une astuce. Il disait, je ne travaille que pour vous, que pour des Français, que pour des Parisiens qui comptent pour moi.
Puis cette passion entre Diaghilev et Nijinsky, hein, c'était le couple homosexuel sans doute le plus connu de Paris. C'est une histoire d'amour, vous le disiez, Vladimir Fedorovski. Hein, c'est là que Picasso a rencontré le premier amour et la première femme de sa vie, Olga Koklova.
Bien sûr, parce que l'histoire des ballets russes, c'est toujours les grandes histoires d'amour. Picasso, il y a une égérie de Matisse, Lydia Delektorska, m'a rapporté comment ils se sont rencontrés Picasso et Olga après leur rendez-vous d'amour. Elle l'a un tout petit peu cassé un pied et finalement, il n'y avait pas de choix. Ils devaient se marier. Mais tant d'autres, Chanel et Stravinsky, peu de gens savent que Chanel était à l'origine souvent de ce que faisait Stravinsky. Elle le trompait plus tard et Diaghilev, il a dit, ne viens pas. Et il va te tuer.
Et Stravinsky, dont l'arrivée au ballet russe correspond au premier grand scandale, justement, des ballets russes, avec son Sacre du printemps qui a déchaîné les passions. On écoute Serge Liffard.
C'était une révolution esthétique, musicale, décorative, chorégraphique. C'était le plus grand scandale. Malgré cela, c'était le jour peut-être les plus glorieux et des ballets russes et de Stravinsky. Thank you.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les ballets russes.
Et un extrait que l'on vient d'entendre du Sacre du printemps de Stravinsky et qui est joué par l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Stravinsky en 1940. Le Sacre du printemps, le plus grand scandale, disait Liffard, des ballets russes. C'est une musique sauvage aussi, disait Debussy. C'était en 1913, c'était extraordinaire.
Extraordinaire parce que, il faut dire, quelle prémonition ces deux créateurs ont eue. Ils sentaient que la grande catastrophe arrive. La catastrophe dans leur pays.
La guerre de 14.
La guerre de 14. Et comme ça, ils donnaient prémonition de cette catastrophe, exprimée avec cette modernité exceptionnelle et souvent avec l'accent russe que vous avez senti avec les phares. Et le mien, bien entendu.
Et que l'entend chez vous. Et alors, vous racontez dans votre livre, Vladimir Fedorovski, que pendant que se jouait le Sacre du printemps, il y avait une danseuse qui se trémoussait, puis alors qui tenait sa joue dans sa main. Et puis, oui.
Les gestes cassés. Dentiste, ouais. Au secours, dentiste, pourtant, ces gestes cassés, vous savez, c'est tout, maintenant, tout est influencé. Souvent, j'ai parlé avec les chorégraphes modernes. Tout le monde sans exception, vous savez, il revient à ça. Regardez Béjart, il souvent évoque tout ça. Vous savez, il est directement influencé par le génie, cette fois-ci, non seulement compositeur de Stravinsky, mais aussi de la chorégraphie des ballets russes.
Alors, on était à la veille de la guerre. Diaghilev part en Amérique du Sud avec Nijinsky, ils vont également en Suisse. Et puis, alors là, ils vont déchaîner d'autres passions en pleine guerre, en revenant à Paris, avec un autre moment fort des ballets russes. Parade, qui a été montée à Paris en 1916 en présence d'Apollinaire, de Picasso et de Jean Cocteau, que l'on écoute dans cette archive de 1963 parlant de ce spectacle.
On ne sait pas quelles sont les raisons du scandale. C'est déjà très étrange de penser que Parade était pendant Verdun. Il y avait des deux choses, que Paris avait une vie intense pendant qu'il y avait la vie intense des tranchées. On voulait nous tuer, des dames se précipitaient sur nous avec des épingles à chapeau. Nous avons été sauvés par Apollinaire parce qu'il avait la tête bandée, il était en uniforme et on le respectait. Il se mettait comme devant nous comme un rempart. Mais nous avons entendu, Picasso et moi, un monsieur qui disait à un autre: si j'avais su que c'était si bête, j'aurais amené les enfants.
Alors c'était Cocteau commentant ce scandale également en 1916, qui a été, ou 17, je ne sais plus, qui a été Parade de Eric Satie.
Bien sûr. Pas Eric Satie. Quelle réunion quand même d'artistes quand on regarde aujourd'hui tous ensemble. Apollinaire, Eric Satie, Picasso, Cocteau, Diaghilev, ils sont tous là, inimaginables. Et finalement, c'est vrai qu'ils provoquent les scandales, mais c'est tout souvent prémonitoire. Et finalement, le développement de l'art moderne tout court suit les traces de Diaghilev.
C'est à l'occasion de Parade, dites-vous, que Apollinaire a inventé le mot surréaliste.
Oui, quand il a écrit, le programme justement pour ce ballet, c'est comme ça qu'enfin il y avait un déclenchement, en tout cas le mot. Surréalisme.
Alors, tournant, dites-vous, Vladimir Fedorovski, dans l'histoire des ballets russes, tournant dans l'histoire de l'art, d'ailleurs tout court, en général, tournant aussi dans la vie de Diaghilev, qui est abandonné peu de temps après par Nijinsky, qui va se marier.
Bien sûr, je vais vous dire, Diaghilev, c'était quand même un hypnotiseur, soyons le dire, mais un hypnotiseur omniprésent. Souvent, dans les couples, ça arrive, quelqu'un qui est trop présent, il écrase l'autre. Et bien sûr, c'est une passion entre les deux, de Nijinsky et de Diaghilev. Mais en même temps, il est tellement pesant qu'il commence à fuir. Et puis, une jeune fille, une aristocrate hongroise, lui explique autre chose. Comment explique jusqu'à leur point, on se demande. Parce qu'il faut dire que Nijinsky parlait très peu le français et elle ne parlait pas russe. Et puis le mariage. Le mariage a provoqué une de ses colères mémorable de Diaghilev. Il pleure devant tout le monde, il casse les meubles. Vous savez, Monsieur Sert, il va nous rapporter ce qui s'est passé après. Il a dit, personne n'était remplaçable. Il vient en Russie, il invente un autre Diaghilev, ce sera Massine, il y aura d'autres après.
Ouais.
Toujours avec ce but, l'art pour l'amour et l'amour pour l'art.
C'était tragique la fin de Nijinsky, donc après cette passion homosexuelle entre Diaghilev et lui, il épouse cette femme et puis il va sombrer dans la folie. Ce plus grand danseur sans doute du XXe siècle a passé les 30 dernières années de sa vie dans un asile de fous.
Bien sûr, mais cela dit, c'est une histoire triste. Quel créateur, je dois vous dire, quand même cette réunion avec Diaghilev, elle a produit des merveilles. Et après ce choc psychologique, certainement ce choc était inévitable. Il était son père et surtout son frère, ils ont été psychologiquement instables. Mais peut-être cette séparation avec Diaghilev a accentué les choses.
En tout cas, Diaghilev a remplacé Nijinsky par d'autres danseurs, vous le rappelez, d'autres grands danseurs, Myassine, et puis également Serge Lifar, venu de Russie, pour y commencer au ballet russe une extraordinaire carrière de danseur.
Avec mille difficultés, j'ai quitté mon pays et j'ai rejoint le ballet russe le 13 janvier 1923. Et alors, Diaghilev m'a fait une impression d'un empereur, d'un boyard, d'un seigneur tout à fait de l'autre monde, parce que j'ai pris l'habitude déjà de la Russie en révolution. Donc j'étais très intimidé et bientôt, une semaine plus tard, il nous a descendu à Monte Carlo, il vient lui-même, il a fait l'examen de ces 5 garçons qui sont arrivés de Russie. En me regardant, et avec une sorte de pitié, il dit, j'égare ce jeune homme, il sera danseur.
Et il sera même, Serge Lifar sera même, qu'on vient d'entendre, sera même le premier artiste des ballets russes et une des dernières grandes passions artistiques et amoureuses de Diaghilev.
Bien sûr, ils vont aller à Venise, il y aurait, cette histoire est aussi, il crée les grands artistes, il crée les grands chorégraphes, il les amène dans les mêmes endroits, dans les mêmes musées, il montre les mêmes tableaux, et inévitablement, il devient par les génies qui marquent l'histoire de l'art.
Diaghilev a même amené Serge Lifar voir Nijinsky dans son asile de fous. C'était terrible cette scène que vous racontez.
Vous savez, il voulait chaque fois que les prédécesseurs sentimentaux qu'on se connaisse, que ses amoureux connaissent ses prédécesseurs. Et finalement, comme ça, une scène surréaliste. Nijinsky allongé, figé, et son successeur dans le cœur de Diaghilev vient le saluer. Déchirant.
Et ça, c'était peu de temps avant la mort de Diaghilev, mort en 1929, assez jeune, et mort en présence de Serge Lifar. Il vous décrivait aussi la fin, l'enterrement. C'est vraiment théâtral,
de Diaghilev. Grand artiste. Ouais. Et il mourait en génie de théâtre, parce que ses deux dernières amies, Korchnov, dont on vient de rendre l'hommage à l'Opéra de Paris, et Lifar, ils ont pris entre les dents une ficelle qui tirait le gandolfe funéraire qui amenait cela vers le dernier demeure de Diaghilev. Elles sont tous là, les égéries des ballets russes, telles que Missia Sert, finalement, la fin est artistique aussi.
Dernière demeure de Diaghilev, donc au cimetière San Michele de Venise. Et puis aussitôt, les ballets russes se disloquent. Alors, il y a une phrase, je ne sais plus qui disait, je crois que c'est un roi d'Espagne qui demandait à Diaghilev, mais au fond, qu'est-ce que vous faites au ballet russe? Et Diaghilev disait, écoutez, je n'y fais rien, je n'y suis rien, mais je suis indispensable. La preuve, il meurt en 29, plus de ballets russes, il se disloque, et en même temps, il y a une postérité des ballets russes. Vous racontez aussi Vladimir Fedorovski, quelqu'un que vous avez bien connu et qui est né après la mort de Diaghilev, qui était Nourieff, et Nourieff vous disait, je suis l'héritier de Diaghilev.
Ah ça, c'est l'histoire est formidable, parce que l'héritage est partout, dans beaucoup de troupes, non seulement en Russie, mais Nourieff, un autre grand danseur, un autre grand chorégraphe, immense danseur, avec son saut vers la liberté.
Le directeur artistique de l'Opéra de Paris à la fin de sa vie.
Bien sûr, il a gardé cette tradition, et je pense qu'il a bien incarné, mais on le voit dans tous les grands chorégraphes d'aujourd'hui, l'héritage de ballet russe est bien vivante, et plus vivante que jamais, et dans l'art pictural, et dans la mode. Et finalement dans les histoires amoureuses, puisqu'encore une fois l'histoire secrète des ballets russes, c'est l'histoire, tout d'abord les histoires d'amour.
Et peu de temps avant sa mort, Nourieff, vous avez dit en 92, maintenant je vais le rejoindre, disait-il, en pensant à Diaghilev.
Adieu, il a dit, je vais le rejoindre.
Merci Vladimir Fedorovski. On se quitte justement avec la symphonie numéro 2 de Tchaïkovski, qui était dans Le Festin, le premier spectacle des ballets russes en 1909 à Paris. Je rappelle que mon invité, Vladimir Fedorovski, est auteur de « L'histoire secrète des ballets russes » publié aux éditions du Rocher.